RMC, face aux grandes gueules.
Face au GG, Marion Maréchal, eurodéputée Identité Liberté. Bonjour.
Bonjour.
C'est vrai que cette canicule est extraordinaire. On voit les écologistes se convertir à la climatisation. On vous voit, vous, finalement, abandonner vos réflexions climato-sceptiques.
Ah non, pas du tout. Excusez-moi. Vous ne pouvez pas faire de comparaison entre, d'un côté, des gens qui, quand même, à travers une technophobie socialo-écolo, on conduit quand même à des morts, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est une idéologie qui est meurtrière. Je ne vais pas vous revenir sur les chiffres, vous l'avez vu. On est face manifestement à des taux de mortalité dans les hôpitaux et dans les EHPAD qui sont surévalués. On a 24 arrêts cardiaques à Paris hier contre 10 en moyenne. Donc, je veux dire, on ne peut pas en rire. On est face à quelque chose d'absolument dramatique qu'on pourrait d'ailleurs décliner dans plein d'autres secteurs, parce que sur le nucléaire et dans d'autres aspects, c'est une réalité. On pourra quand même accorder au camp national la cohérence de ce point de vue-là, puisque le plan clim, ça fait des années que c'est une proposition du camp national. Mais j'aimerais quand même qu'on s'arrête deux secondes sur l'état de d'écolo-bolchéviste dans lequel on évolue, parce qu'on a quand même, je pèse mes mots, un État qui prend 60% de la richesse produite, qui est incapable donc de protéger les plus vulnérables, les enfants, les personnes âgées, et d'équiper, comme on le voit, les équipements publics, et qui, quand les gens s'organisent face à cette défaillance, parce que c'est le cas, les empêche de s'organiser. Donc on a l'affaire de ce père qui tente d'équiper la chambre de sa maman de 83 ans qui est hospitalisée depuis plus de 6 mois dans une chambre non climatisée, à qui on dit non, c'est impossible parce que ce serait injuste pour les autres malades. Donc c'est pas grave, qui crèvent tous à égalité, quoi, c'est ça en fait. On a des parents qui se cotisent pour mettre en place une climatisation dans une école, à qui on dit là, ah bah oui, mais ce serait injuste pour les autres enfants, donc que tous les enfants fassent des malaises à égalité, ce sera une bonne chose. Et en plus, non content de tout ça, on paye des milliards d'euros d'agences comme l'ADEME qui vont sur tous les plateaux de télévision nous culpabiliser et nous dire que la climatisation serait un drame absolu.
Donc, ce ne sont pas quand même les écologistes qui sont responsables de ce réchauffement climatique. Ils sont plutôt des lanceurs d'alerte depuis des années.
C'est les écologistes
J'ai retrouvé vos déclarations et vous étiez en train. Il n'y a pas encore longtemps, vous disiez attendez, c'est un débat, tout le monde n'est pas d'accord, etc.
Alors moi, j'ai dit toujours la même chose, c'est très simple. J'ai dit qu'il y avait évidemment un réchauffement et un bouleversement climatique. Je ne l'ai jamais nié, donc ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Deux, la seule chose que j'ai admise, mais je pense que même les scientifiques ne sont pas d'accord, c'est de dire quelle est la part de responsabilité humaine. C'est-à-dire, OK, il y a une responsabilité humaine, ça a l'air d'être admis. Est-ce que c'est 10, 20, 50 ou 60%? Personne ne le sait. Mais en revanche, il y a quand même une petite chose qu'il faut rappeler. Si on était allé au bout du délire idéologique que promeuvent les écolos depuis des années, qui organiserait la décroissance, l'appauvrissement et je ne sais combien de tsunamis d'interdiction et de réglementation.
C'est à cause du capitalisme, tout ça.
La France est responsable de 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. 1%. Si on était tous aux toilettes sèches et qu'on se lavait avec du sable et qu'on arrêtait de se chauffer l'hiver et de se climatiser l'été, ça ne réglerait en rien le problème mondial des émissions de gaz à effet de serre. Donc on peut être raisonnable.
D'accord.
Voilà, on peut être raisonnable.
La clim va pas tout résoudre. On va pas climatiser l'ensemble de la France.
Donc est-ce que l'adaptation,
c'est pas justement travailler différemment? Certains disent même il faut remettre en cause le capitalisme parce que c'est ça qui détruit la planète.
Non, le capitalisme, si vous voulez, ce qui va permettre d'assurer la transition écologique, c'est justement parce que on est dans un pays dit capitaliste qui produit de la richesse et qui nous permet de financer cette transition écologique. A priori, regardez les pays en voie de développement, ils sont évidemment beaucoup moins avancés sur la question de la transition écologique parce qu'ils n'ont pas les moyens de cette transition écologique, que ce soit d'ailleurs sur la manière de produire, sur le plan agricole, soit sur la manière de traiter les déchets ou simplement d'adapter les bâtiments, parce que ça a un coût, cette transition écologique. Donc au contraire, moi je crois que c'est précisément par un modèle économique qui produit et grâce au génie humain qu'on va s'en sortir. Donc je suis pas du tout d'accord avec ça. Et là où j'en veux énormément.
Le camp national, comme vous l'appelez, est devenu écolo.
Et là où j'en veux énormément à ça. Mais c'est pas une question. Nous, on est. Alors, excusez-moi.
Vous parlez de rénovation énergétique.
Mais on a toujours
entendu parler de.
On a toujours été extrêmement pragmatique de ce point de vue-là, puisque les seuls qui depuis des années parlent d'adaptation, c'est nous. C'est-à-dire, on a une gauche qui en effet depuis des années. Crie de manière ultra alarmiste sur le réchauffement climatique, mais qui en aucun cas n'a permis à la société d'appréhender ce problème. Nous, on a été pragmatiques depuis le début et on alerte depuis des années pour dire ceux qui seront les premiers touchés, c'est quand même pas très sympa de la part de la gauche, ce seront justement les plus vulnérables et les plus pauvres. Donc de ce point de vue-là, on est parfaitement cohérent et je vais même au bout du sujet. On a aujourd'hui des dispositifs qui existent qui valent entre 10 et 15 milliards selon les estimations de fonds, que ce soit la prime Rénov, soit le fonds chaleur de l'ADEME, le fonds vert, qui aujourd'hui exclut pour l'essentiel justement la climatisation. Donc je veux dire, on a des moyens immédiats qui devraient nous permettre de pallier à ce dispositif. Et je vais même au bout, puisque vous me parlez des écolos et on parle de cohérence. Il y a pas moins de 200 milliards qui sont prévus pour les 10 années à venir pour faire monter en puissance les énergies intermittentes renouvelables. Dont on sait aujourd'hui, dont on connaît toutes les limites, dont on connaît l'incompatibilité avec le nucléaire, ne serait-il pas temps d'interroger ce modèle qui va avoir évidemment un coût, même j'ai envie de dire esthétique, considérable dans le paysage français, pour justement réorienter ces 200 milliards sur l'adaptation sur le plan agricole, sur le plan du bâti, plutôt que une fois de plus d'avancer vers des lubies écologistes qui n'ont pas d'efficacité sur le plan énergétique.
Est-ce que finalement, là, au-delà du débat sur la climatisation, est-ce que ce qui se passe en ce moment, ça nous permet pas de toucher du doigt la lenteur de l'État ? Est-ce que c'est pas ça en fait ? Parce que depuis 2003, les enseignements, les rapports, avant même, on les a. Mais où on est toujours étonné, c'est de voir qu'on n'a pas rénové autant les écoles, qu'on n'a pas installé cette fameuse climatisation, parce que on peut toujours l'installer. Après, on l'utilise ou on l'utilise pas, mais au moins on se dit, on a l'outil. Comme on a un airbag, les constructeurs de voitures, ils ont mis les airbags, ils ont mis la climatisation dans les voitures, et puis après, parce qu'on leur a donné des normes, non, là, et ça... ils l'ont fait. Mais là, est-ce qu'on touche pas plutôt la lenteur de l'État de la prise de décision ?
Là, ça va au-delà de la lenteur, c'est le refus. Je vous donne des exemples très précis. À Nantes, il y a un hôpital flambant neuf qui a été construit. Il y a une gare flambant neuf qui ont été construits. On a refusé d'y installer de la climatisation. Donc ce sont des fours aujourd'hui. On a mis en place de nouvelles réglementations sur les nouvelles constructions justement dans le bâti qui ont dissuadé les constructeurs pour des raisons d'émissions, de gaz à effet de serre et de calculs écolo d'installer justement des systèmes de refroidissement. Je vous le dis, on en parlait tout à l'heure, on a exclu par exemple les pompes à chaleur réversibles alors que le coût énergétique est le même de ces dispositifs rénov. Donc là c'est un choix, voilà, on s'est plié d'ailleurs la fausse droite, le sang, tout le monde s'est plié à ce truc-là. Donc on a organisé la société et aujourd'hui on a des gens dans des bureaux climatisés comme l'ADEME qui expliquent qu'il faut mettre des draps mouillés à ses fenêtres pour régler le problème. Voilà, c'est du délire. C'est du délire meurtrier.
Juste avant que vous n'arriviez, on discutait. Vous avez fait votre choix. Ce sera Jordan ou Marine si elle se présente au fait.
En l'occurrence, c'est malheureusement les juges qui vont en décider. Voilà, puisque le 7 juillet, nous aurons la
décision. Quel est le meilleur candidat
final. Mais les deux sont de très bons candidats.
Oui, enfin,
les deux
sont de très bons candidats. Jordan Bardella a une petite longueur d'avance.
Je sais que les journalistes veulent lancer le débat, mais c'est un débat.
Non, je ne lance pas le débat. C'est un débat. Parce qu'on teste les deux dans les sondages et il est mieux placé.
Ne nous perdons pas, j'ai envie de dire, dans ce débat, d'ailleurs sur lequel on pourrait revenir selon les configurations, mais indépendamment de ça, le RN a pris sa décision. Elle est claire, elle est nette. Ce sera Marine Le Pen si elle peut y aller, ce sera Bardella si elle est empêchée. Ce qu'on peut tirer comme conclusion de ce sondage, c'est que le camp national est très haut. Mais qu'être très haut au premier tour n'est pas suffisant. Ça, et on voit qu'il y a quand même aujourd'hui des gens qui.
Votre problème, c'est le deuxième tour.
Qui restent chez Zemmour, qui restent chez Retailleau. Et donc, tout l'enjeu, ça va être d'aller convaincre ces Français-là. Ce à quoi je vais essayer de m'atteler. Je crois qu'on a beaucoup de choses à leur dire, beaucoup de choses en commun. Donc, de leur expliquer qu'il ne faut pas être dans la dispersion. Qu'aujourd'hui, ils ont la chance de pouvoir être intégrés leurs idées, qu'elles puissent être intégrées dans une coalition potentiellement gagnante, sans se compromettre avec le centre, sans avoir rien à devoir en cas de second tour aux voix de gauche. Et donc, évidemment, c'est le choix le plus utile pour la France face à la menace Mélenchon.
Justement, Jordan Bardella, Emmanuel Devilliers.
Toute petite parenthèse d'abord par rapport aux gens qui empêchent d'amener une climatisation dans une chambre ou dans une école. Assez d'égalitarisme en France. Parenthèse fermée. Concernant la candidature, dans dix jours, la décision inouïe dans l'histoire politique française va tomber. L'arrêt de la Cour d'appel qui, vraisemblablement, même si une surprise est possible et je ne prends pas parti, rendra inéligible la candidate naturelle, Madame Marine Le Pen. Auquel cas, c'est donc Jordan Bardella et sa compagne qui seront devant les Français pour entrer à l'Élysée. Et moi, je m'adresse tout simplement à Marion Maréchal dans cette configuration et rebondissant sur son propos. Elle aura un rôle important pour ramener Monsieur Bardella à la réalité économique de la France, pour sortir du socialisme, du programme quand même de Madame Le Pen, des impôts sur la fortune, des trucs qui vont ruiner le pays en faisant fuir les derniers riches et en nous mettant tous par terre.
Bon, alors un candidat semble, libéral, c'est Jordan Bardella, un candidat
un
socialiste, c'est
Marine Le Pen. Je ne sais pas si je pourrais répondre point par point.
Il y a quand même beaucoup d'ambiguïté sur le programme économique du Rassemblement National.
Si vous regardez ce qui a été fait par le camp national, d'ailleurs au sens large, alliés compris au moment du budget, on est quand même face à une offre qui a consisté à baisser systématiquement la fiscalité sur les classes moyennes et les classes populaires, à vouloir réduire le train de vie de l'État, à vouloir supprimer des agences. Donc on n'est pas face au délire économique proposé aujourd'hui par Mélenchon, avec 300 milliards d'euros d'impôts supplémentaires.
Vous avez un rôle pour influencer Jordan Bardella dans un programme qui serait en adéquation avec l'assentiment qu'il recueille pour pouvoir être élu.
Maintenant, j'incarne, et merci de me permettre de le préciser, dans cette coalition, en effet, un courant plus libéral sur les questions économiques. Comptez sur moi pour tâcher de faire vivre ce courant et surtout m'adresser...
Il y a donc plusieurs courants désormais.
Mais c'est le principe d'une coalition. Le principe d'une coalition, c'est que vous associez des gens qui sont complémentaires, qui ne sont pas d'accord sur tout, et qui se retrouvent d'ailleurs, et ça va être l'objet de la présentation d'ici quelques semaines, d'un programme présidentiel qui adapté à la situation budgétaire et économique du pays aujourd'hui.
L'état, le RN est un parti attrape-tout.
Alors, parlons aussi de ce qui est arrivé au jeune Louis, 17 ans, qui est un gamin de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, qui a été littéralement lynché à mort par 5 jeunes qui lui avaient tendu un guet-apens. Donc un jeune de plus tué par d'autres jeunes. Quelles leçons en tirer ?
Merci déjà d'en parler, parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup de cette affaire, alors qu'on est quand même face à un scandale d'État, une fois de plus. C'est un jeune qui était placé à l'aide sociale à l'enfance. Il était sous la responsabilité de l'État. Et la conséquence de cette tutelle, c'est qu'il s'est fait lyncher à mort, parce qu'aujourd'hui, l'aide sociale à l'enfance est un drame pour les enfants qui y sont placés. Parce que l'État, met en contact des enfants vulnérables avec de potentiels agresseurs et délinquants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des cas comme Louis, mais on parle de violences quotidiennes, on parle d'agressions quotidiennes, on parle de viols, on parle de centaines, si ce n'est même de milliers de jeunes filles aujourd'hui placées à l'ASE qui sont en situation de prostitution. Mais la honte, c'est la honte. Voilà. Donc la responsabilité de l'État, elle est dramatique. D'ailleurs, ça fait beaucoup de responsabilité de l'État. Parlons-en d'ailleurs ces dernières semaines. C'est évidemment extrêmement choquant, d'autant plus que le jeune Louis, je le rappelle, a porté plainte. Il ne sait rien passé. Ces jeunes étaient récidivistes. Il ne s'est rien passé. Vous voyez, j'ai dit il y a quelques jours, j'ai plus confiance dans la justice de mon pays, mais je ne peux que réitérer. Voilà, je ne peux que réitérer. Donc, évidemment que ça interroge plusieurs choses. Ça interroge, le fonctionnement de cette aide sociale à l'enfance. Voilà. Est-ce qu'un jour...
On avait reçu l'auteur d'un livre ici qui s'appelle La Fabrique du Malheur. Je vous conseille de le lire.
Absolument.
Justement, il dénonce justement la prostitution, la violence, et c'est accablant.
Est-ce que vous vous rendez compte que l'espérance de vie des gens qui sont passés par des foyers de l'ASE est de 20 ans de moins que la moyenne nationale? 20 ans de moins. C'est-à-dire que les hommes meurent à 60 ans. Et les femmes meurent à 65 ans quand ils sont passés par des foyers. Parce que la réalité, quand on passe en foyer, c'est qu'on ne s'en remet jamais la plupart du temps. C'est des gens qui tombent dans la marginalité, qui tombent dans la drogue, qui tombent dans l'alcool.
C'est un problème avant, c'est pour ça qu'ils sont dans les foyers.
Mais d'accord, mais enfin, vous imaginez donc, en fait, on les fait sortir pire, on n'apporte pas de solution.
Non, voilà.
On les détruit. On les détruit. Donc à un moment donné, je sais que les enfants votent pas, mais le gouvernement, l'État, là, depuis 40 ans, est-ce que vous pourriez éventuellement vous pencher sur cette situation pour apporter une solution? Et la deuxième chose qui doit être interrogée dans cette affaire, c'est une fois de plus la question de l'excuse de minorité. Parce que
Il y a 3 mineurs et 2 adultes.
Exactement. Face à ces criminels,
ils ont 17 ans, les mineurs.
C'est que l'excuse de minorité soit activée et que donc on se retrouve avec des jeunes qui ne puissent pas être condamnés au maximum à la moitié de la peine prévue par le code pénal. Donc moi, je milite une fois de plus pour l'abaissement de la majorité pénale à 15 ans, parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne puisse pas traiter ces barbares aujourd'hui comme de grands criminels.
Laura.
Oui, alors moi je voudrais rebondir justement en parlant de l'affaire Louis, mais aussi qui va pouvoir faire écho à tellement d'autres affaires. Pour moi, ce qui tient une cité, ce qui tient une nation, c'est la justice. Or, là, sur tous les sujets que l'on touche, tous les sujets que l'on apporte sur ce plateau, on se rend compte que la justice est soit d'un côté, soit défaillante. Moi je voudrais savoir, et je pense que mon vote ira au candidat, ou plus exactement au programme, qui me proposera une réelle solution pour que la justice fasse enfin son travail correctement et que l'on puisse être tous jugés de la même manière à égal. Je ne veux plus entendre qu'un, comme le disait Bruno, que Olivier Bailly s'en sorte avec 18 mois de sursis pour avoir proposé sa fille sur des réseaux pédocriminels. Je ne veux plus jamais entendre que on dit à une jeune femme que on va l'accuser de harcèlement si ça continue parce qu'elle a l'air sur la lenteur de la procédure de sa fille. Je ne veux plus entendre que les agresseurs du périscolaire s'en sortent avec du sursis. Mais ma question, c'est comment comptez-vous faire en sorte que la justice fasse à nouveau son travail et que la balance soit à nouveau complètement équilibrée?
Alors déjà, permettez-moi de dire que je dois dire, extrêmement choquée par la réaction d'une partie, justement, du monde judiciaire après l'affaire Liana. On voit depuis quelques jours des mobilisations, des rassemblements de magistrats. J'ai vu une petite pancarte « Je suis le parquet d'Auch ». Vous savez, en référence à « Je suis Charlie », donc journaliste assassiné par un terroriste. Non, moi, je ne suis pas le parquet d'Auch, en fait. Je suis Liana, je suis les parents de Liana. Et je veux dire qu'on puisse avoir ce genre de discours avec des boucles Telegram dans lesquelles on s'organise pour faire des tribunes, pour défendre la profession, ou faire des communiqués de presse, comme j'ai vu celui du Conseil supérieur de la magistrature, donc qui juge les juges, où il y a deux lignes. de compassion pour Liana, 5 lignes pour dire il circulait, il y a rien à voir, et 10 lignes pour dire c'est insupportable de toucher à la profession, d'oser remettre les juges en cause. Voilà, donc moi je vous le dis,
c'est un réflexe corporatiste.
Absolument, c'est un total réflexe corporatif, c'est insupportable qu'on ne puisse pas dans notre pays interroger une décision judiciaire et interroger une défaillance personnel, une faute professionnelle. Est-ce que donc là, j'y réponds. Je suis d'accord avec vous. Il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet déjà de l'interdiction de la syndicalisation des magistrats. Il est inadmissible qu'on accepte que des magistrats aujourd'hui soient publiquement syndiqués dans des syndicats politisés, notamment d'extrême gauche comme le syndicat de la magistrature. Il faut réformer le Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons aujourd'hui des juges qui jugent des juges et qui sont élus pour cela sur liste syndicale.
Il faut supprimer la loi Taubira aussi.
Il faudrait à minima, en tout cas, de ce point de vue-là, que les juges qui jugent les juges soient tirés au sort. Ça me paraît être le minimum. Et pour ma part, je considère qu'il faudrait revoir aussi la manière dont ces juges sont formés et recrutés.
On supprimerait l'école de la magistrature, c'est une proposition possible.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que déjà il faut distinguer selon le type d'affaires qu'ils vont juger, qui nécessite plus ou moins évidemment d'expérience, mais il faut faire monter en puissance le tour extérieur, c'est-à-dire le recrutement de professions extérieures, notamment d'anciens avocats de la défense, de commissaires, de gendarmes, d'anciens policiers.
On vous verra donc à la manifestation du 4 juillet, après, le grand rassemblement du 4 juillet.
Oui, mais moi j'ai aucune problème. Non, mais c'est une vraie question. Bien sûr, aux manifestations
vous
et
pourquoi pas. Si, quand vous critiquez la justice, je me demande si vous critiquez pas surtout ces juges qui vont empêcher votre temps de.
Ah non,
de
Bruno, tu peux pas dire.
Je me pose cette question-là parce que moi je trouve que ça fait des années qu'on charge la justice. Moi je l'entends, elle est pas parfaite. Mais dernièrement, vous êtes en train de critiquer les travaux de juges alors qu'il est avéré quand même que de votre tante a pris de l'argent pour faire autre chose que.
Je vois pas du tout le rapport. Il est surtout avéré.
Non, moi je trouve qu'en fait, aujourd'hui vous tirez sur la justice tout le temps, mais c'est tellement. En fait, moi dans ma tête, je suis en train de me dire, et je suis pas le seul, bah oui, il tire sur la justice parce qu'effectivement, ce qui s'est passé là-bas à Auch, c'est infernal et il faut vraiment régler le problème. Mais c'est vrai que c'est facile aussi de mettre un peu de temps en disant, ouais, la justice.
Je tire sur certains juges, comme vous le dites, parce qu'il y a une petite gamine qui a fini violée et tuée après 10 ans des rangs judiciaire et de multiples signalements qui sont restés sans suite. Donc, excusez-moi, c'est mon moteur principal, mais je pourrais vous parler de l'affaire Elias. C'est le même genre de défaillance. Donc oui, à un moment donné, faut qu'on accepte une justice indépendante. C'est pas une justice intouchable et irresponsable. Voilà. Et quand il y a des fautes professionnelles, il faut pouvoir, à un moment donné, les pointer du doigt. Alors, j'entends bien sûr, c'est un vrai sujet, la question des moyens. Ça fait 40 ans qu'on n'investit plus dans la justice, on investit dans l'assistanat dans ce pays. Donc, c'est sûr qu'on a fait des choix de société. Hein, faut peut-être les revoir. Mais on doit quand même aussi pouvoir interroger la politisation en effet de la justice et même l'idéologie du laxisme. J'aurai pas le temps de donner tous les chiffres ici, mais ça n'est pas un mythe, c'est une réalité avérée par les chiffres quand on voit aujourd'hui les taux d'incarcération et la durée réelle des peines qui sont exécutées dans nos prisons françaises.
Merci Madame Leroux, députée Identité Liberté. Marion Maréchal d'être passée par les grandes gueules.